Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs dans le Christ, que l'amour du cœur du Père, sa paix et sa joie, en le Fils et en les feux de l'Esprit-Saint, soit toujours avec vous. Et si vous voulez, pour conclure et en même temps enchaîner ce temps d'adoration que nous venons d'avoir tout juste avant de commencer l'enregistrement de ces cassettes, recueillons-nous un moment et prions. Seigneur, dans l'alliance instaurée par ton Fils, tu ne cesses de te former un peuple qui se rassemble dans l'Esprit-Saint sans distinction de race et sans frontières. Accorde à ton Église d'accomplir sa mission universelle, qu'elle soit vraiment le ferment et l'âme du monde qui se cherche présentement, comme jamais auparavant, pour que toute l'humanité renouvelée dans le Christ, par l'exemple de l'Église entre autres, devienne enfin la famille de Dieu. Seigneur, nous t'en prions avec ferveur, aide ton Église à bien remplir sa tâche. C'est par elle que tu veux révéler aux plus pauvres, matériellement et spirituellement parlant, toutes les richesses de l'Évangile. Donne à ton Église la sainteté dont elle doit vivre pour être de plus en plus digne de celui qui l'a créé, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pendant tous les siècles des siècles. Amen. Et nous voilà donc rendus à la quatrième et dernière interpellation fraternelle. Le slogan particulier de cette interpellation, comme le programme vous l'indique, est celui-ci. Une Église à bout de bras ou à coup de grâce. C'est-à-dire, voulons-nous d'une Église qui va se tester à l'effort ou se tester à l'essor? À l'effort que nous allons déployer ou à l'essor qu'à travers nous, lui va susciter? Alors, remettons-nous au travail, si vous vous souvenez bien, à la toute fin de du dernier enseignement, nous parlions de la dixième force positive, celle des jeunes. Et j'avais oublié de mentionner tout juste avant la fin que sur ce thème, j'aurai en circulation une cassette intitulée « Première interpellation aux jeunes » qui cherche, sans le savoir, le Seigneur et son Église. Cassette numéro 13, D2, 19 et 20. Passons maintenant à la onzième force positive. Mes chers amis, l'heure est venue de repenser à fond et au fond notre manière d'exprimer, c'est-à-dire de traduire dans les faits, le concept d'institution en Église. Quand on parle de l'Église, il est courant de distinguer deux aspects, ce qu'on appelle l'Église communion, c'est-à-dire la communauté ecclésiale, et l'Église institution, c'est-à-dire l'Église structurée et hiérarchisée. Les deux aspects sont d'origine divine. Elles sont complémentaires et indispensables. Il ne faut donc pas opposer un aspect à l'autre. En Église-institution, c'est l'Esprit-Saint qui nous rassemble et tisse entre nous des liens d'unité, de communion et crée la fraternité chrétienne. Et c'est le même Esprit qui également suscite en Église-communion les différents ministères, les dons, les modes d'action, mais comme nous le rappelle saint Paul, mais c'est toujours le même esprit. Ces ministères doivent s'exercer dans la charité et au service de la communion. En Église institution, c'est encore le même esprit qui anime les ministères dits hiérarchiques. La communion a besoin de leadership, le Seigneur y a pourvu. La hiérarchie est un service et un rappel constant que les croyants sont rassemblés en Église de par la volonté du Père et par le Christ dans l'Esprit. Ceci étant dit, il faut bien reconnaître que, règle générale, en principe comme en pratique, l'Église communion ne pose pas trop de problèmes. Évidemment, elle est souvent anémique, souvent escamotée, mais elle n'est pas trop contestée ou repoussée. Là où ça se gâte, se discute, et ça peut décevoir, blesser ou irriter, c'est sur l'aspect Église-institution, c'est-à-dire structuré et hiérarchisé. Pourquoi? Parce qu'on y trouve beaucoup plus d'occasions de friction, comme par exemple dans l'exercice de l'autorité, les décisions, les nominations que ça comporte, les divergences de vues, les déclarations. Et c'est là que l'humain est plus douloureusement ressenti et parfois blessant. La dualité donc, communauté et institution en Église, est d'origine divine. Elle est complémentaire et indispensable. À tout moment, d'ailleurs, on le dit et redit. Mais l'heure est venue, à mon humble avis, non pas de remettre en cause cette dualité, mais de constater que notre concept et notre façon d'exprimer ou de mettre en pratique l'idée d'institution est à réévaluer, à désintoxiquer de tout ce qui, peu à peu, avec le temps, souvent malgré nous, l'a durci, l'a encombré, et a dévié même le sens et la portée originelle, voulue par Dieu, de l'institution en Église. Notre vie et notre fonctionnement en Église-institution a beaucoup trop emprunté de matériaux du monde profane et de traits communs à l'esprit du monde. Et ce, souvent avec les meilleures intentions, avec des désirs d'efficacité et d'adaptation. L'institution est voulue par Dieu. Elle est nécessaire à la survie et à l'incarnation de l'Église, mais jamais au détriment de l'Église communion, comme c'est hélas devenu souvent le cas chez nous et ailleurs. Normalement, l'institution devrait, en s'affirmant au minimum requis et raisonnable, permettre à la communauté en Église de s'épanouir au maximum. Donc, un minimum relatif d'institution pour un maximum d'âme en Église. Or, cette équation, à toute fin pratique, dans une notable majorité des cas, est souvent inversée. On a un maximum d'institutionnel avec un minimum de communionnel. La tentation est subtile. Et beaucoup y succombent. En effet, en certains lieux, milieux et hauts lieux, on croit que c'est l'institution qui doit ou va faire jaillir, accroître, encourager, soutenir la communion en Église. Or, je regrette de le dire, c'est faux, théologiquement faux, psychologiquement et sociologiquement erronée. Le grand maître d'œuvre, c'est d'abord l'Esprit Saint. C'est lui qui nous rassemble et tisse en nous des liens d'unité, de communion, crée la fraternité chrétienne. Et il agit d'abord au fond des cœurs. Cela ne s'injecte pas d'abord en provenance de l'évêché. À la messe quotidienne, d'ailleurs, on ne cesse de le demander. Et je cite, « Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Nous entre nous d'abord et avec nos frères séparés. » À l'heure actuelle, notre tendance à l'embonpoint administratif, dont j'ai déjà parlé, brouille plus que jamais toute la situation. On y voit un exemple concret d'une institution qui veut s'affirmer, prendre tout en main, dominer, contrôler, et cela, qu'on le veuille ou non, inhibe, détourne ou étouffe les élans et les spontanéités de l'Esprit-Saint qui veut former, inspirer, orienter, et j'ajouterais enthousiasmer, sa communauté ecclésiale. L'institution en Église, après et avec l'Esprit-Saint, devrait normalement être la meilleure alliée de l'Église communion. Et si elle commence à être de plus en plus ici ou là une menace seulement, ou plus grave encore, un obstacle à l'épanouissement de l'Église communion, cela doit déclencher l'alarme et doit nous inciter à réévaluer le tout, non pas en principe, mais dans son application. Et à mon avis, comme l'Église vivante, mes frères et sœurs, c'est toi, c'est moi, c'est nous, étant sauve et respecter l'autorité hiérarchique, voulue par Dieu et indispensable au leadership et au bon ordre en Église, tous les fidèles devraient être invités à s'exprimer à ce sujet et être libres de déclarer leurs questions et leurs recommandations sans peur, sans peur ni reproche. D'ailleurs, il y aurait à tout cela de très, très grands bienfaits. Repenser sérieusement l'application ou l'expression pratique de l'institution va entraîner d'innombrables bienfaits immédiats sur lesquels je n'aurai malheureusement pas le temps de m'arrêter aujourd'hui, qu'il me suffise d'en énoncer quelques-uns au pas de course. Cela permettrait d'abord, de changer et améliorer de beaucoup le concept même et la pratique de l'exercice de l'autorité. Également, de situer beaucoup mieux le sens et la portée de la consultation utile en Église sans passer d'un excès à l'autre. Redonner son vrai sens et une meilleure portée à tout ce qui est loi et règlement en Église. De l'amour de la loi, revenir à la loi de l'amour. Redécouvrir et revaloriser la vraie liberté spirituelle d'enfant de Dieu. Rendre à nouveau l'Église davantage comme un lieu de mise en culture par le Seigneur plutôt que de mise en conserve par les humains. Enfin, expurger de nos lieux ce fameux principe de Peters, malheureusement si fréquent et encore beaucoup trop bien portant en certains milieux d'Église, etc., etc. Quelques bienfaits parmi une foule d'autres. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la douzième et dernière force positive. Un élan certain, déjà en marche, un élan irrésistible et irréversible, vers une église en état continu d'aggiornamento. En 1987 et 1988, au mois d'août de ces deux années consécutives, à l'invitation même du cardinal Danils, archevêque de Bruxelles-Malines et primat de l'Église de Belgique, je me suis rendu prêcher la semaine dite « Retraite du renouveau » offerte aux prêtres, religieux et missionnaires de Belgique. Certains autres prêtres de pays européens s'étaient joints au groupe. Un événement tout à fait imprévu au point de départ s'est produit. J'ai été conduit, et je vous avoue, en un état évident de surprise et de grande émotion, j'ai été conduit, je vous l'avoue en toute humilité et simplicité, par l'Esprit du Seigneur, et cela a été bel et bien discerné et confirmé subséquemment par l'autorité religieuse, à faire une interpellation fraternelle à l'Église de Belgique. Cette interpellation a jailli de mon cœur très fortement et plus vite que je ne pouvais y penser lors de la messe de clôture de la deuxième retraite du 15 au 20 août 1988. Le Seigneur y invitait l'Église de Belgique à ouvrir la marche en Église universelle vers une troisième étape post-conciliaire indispensable. Après les deux déjà accomplies, celle du nouveau et celle du renouveau, vers la troisième étape dite du nouveau renouveau continu en Église, tant souhaité et désiré partout, et qui est, en fait, ce que portait dans son cœur Jean XXIII quand il a convoqué Vatican II et demandé l'aggiornamento de l'Église. Le texte de cette interpellation choc est imprimé et peut d'ailleurs être mis à votre disposition sur demande. Permettez-moi de vous citer quelques courts extraits, en fait deux, de cette interpellation. La première, et je cite, « Ce qu'il nous faut, c'est une Église renouvelée corps et âme de fond en comble, de bord en bord, qui est et qui demeure en état continuel d'aggiornamento, de nouveau renouveau continu. Une Église où les conciles, les synodes et les chapitres de nos communautés religieuses seraient là surtout pour évaluer et synthétiser l'acquis nouveau, pour guider et discerner le renouveau, et non pas tant pour réanimer ou regonfler l'Église, le diocèse ou la communauté devenue anémique. Au risque d'en surprendre peut-être quelques-uns, avec l'audace que le Seigneur me donne, je précise que cette troisième étape post-conciliaire va nous conduire vers ce qui s'appelle le renouveau mystique et communautaire, dans lequel vont se trouver intégrés à merveille tous les renouveaux que nous avons eu la grâce de connaître depuis un demi-siècle. Renouveau biblique, renouveau liturgique, renouveau catéchétique, renouveau écuménique, renouveau charismatique, etc. Toutes les formes variées et complémentaires de renouveau qui nous ont alertés sur les différentes composantes de notre cheminement spirituel, individuel ou collectif, vont se retrouver parfaitement harmonisé dans ce que notre Dieu, Père, Fils et Esprit, nous demande maintenant, à savoir ce nouveau renouveau continu d'ordre mystique et communautaire. Tous en Église, nous allons commencer à goûter comme jamais auparavant cette union mystique de plus en plus intime avec Dieu Et nous allons vouloir de plus en plus en partager les bienfaits et les joies en chrétienté à la grandeur de l'Église. En définitive, par cette troisième étape, il nous demande, et il va nous y conduire car il y tient, à connaître une Église militante sur terre qui soit la plus parfaite image possible de l'Église triomphante céleste où tous nous allons nous laisser combler pendant l'éternité. Fin de cette première citation, et voici la deuxième. Il ne s'agit pas de détruire le déjà acquis. Ce qui est en place demeure. Mais il s'agit de se rendre disponible et docile pour acquérir d'autres trouvailles spirituelles que le Seigneur daigne offrir et compte continuer à offrir sans cesse à de vitam aeternam. Et je vous prophétise, mes chers amis, que si vous répondez adéquatement à cet appel et à cette grâce, on connaîtra enfin cette Église que tout le monde souhaite ardemment, pasteurs et fidèles. Une Église où l'on puise beaucoup plus qu'on ne s'épuise, où lui s'active beaucoup plus qu'on ne s'active soi-même, où l'influx prophétique renaîtra, c'est-à-dire ces bouches d'air prophétiques par lesquelles le Seigneur nous donne de l'air nouveau, pur et tonifiant, au lieu de nous laisser recirculer toujours le même air ou les mêmes airs. Ou une Église où les dons et les charismes qu'on a redécouvert à travers les mouvements de renouveau, vont se multiplier en nombre, en diversité et en puissance. Je précise en passant que l'expérience du vrai de vrai communautaire que le Seigneur nous a permis de connaître au cours des dernières années le confirme amplement. Oui, mes amis, nos groupes de prière, même les plus chevronnés spirituellement, n'ont à la vérité connu qu'une petite fraction seulement des dons et charismes que l'Esprit réserve à l'Église, enfin renouvelée par son nouveau renouveau constant et bien à lui. Enfin, une Église également où pasteurs et fidèles se retrouveront avec joie, complémentaires, heureux de se fréquenter, de s'entraider et de se sanctifier ensemble. Bref, ce sera l'Église où éclateront l'amour, la joie et la paix trinitaire, et comme dit Ézéchiel, la gloire du Seigneur remplira le temple de chacun, le temple de l'Église de Belgique, le temple de l'Église universelle. Fin de la deuxième citation. Mes frères, mes sœurs, je peux vous dire, à l'heure où j'enregistre ces nouvelles interpellations fraternelles, que le Seigneur confirme hors de tout doute qu'il a bel et bien en main la suite et le lendemain prometteur qu'il entend donner à l'interpellation en Église de Belgique. Avec l'accord et la bénédiction et le discernement spirituel du primat de cette Église, le cardinal Danils, et je pourrais ajouter avec l'encouragement déjà déclaré de son prédécesseur, le cardinal Sunens, les fruits et les fleurs apparaissent abondamment déjà, et tout est savoureux et varié. À la vérité et en toute réalité, mes amis, il y a déjà une multitude de gens à travers le monde qui vivent déjà ce nouveau renouveau continu, consciemment ou inconsciemment, ou parce que les quatre éléments essentiels dont nous avons parlé sont en place dans leur vie, qu'ils le sachent ou non, ou parce qu'ils vivent déjà par grâce infuse, privilégiés, le nouveau style de vie et de comportement en Église, ou parce qu'ils sont vraiment en orbite avec le Seigneur, à une telle altitude que les contingences les tracasseries ou les complexités fréquentes de la vie de l'Église-institution dans son style actuel ne les contrarient plus. Enfin, comme j'ai été poussé à le proclamer au cours de l'interpellation à l'Église de Belgique, je me sens encore une fois aujourd'hui pressé de dire ceci et dans les mêmes termes. Il y a, dans l'auditoire d'aujourd'hui, je le sens vivement et le confirme, des prêtres et des fidèles déjà appelés à travailler à cet ensemencement. Ils représentent fort bien tant l'Église institution que les groupements engagés dans le courant du renouveau. Il y en aura bien d'autres encore qui sentiront l'appel du Seigneur. Pour réussir, il ne suffira pas de trouver seulement des âmes de bonne volonté, des gens bien intentionnés, mais bel et bien ceux et celles que le Seigneur choisit et veut envoyer en mission. C'est un appel à de l'héroïsme spirituel et on ne s'y lance pas seulement par goût ou par zèle improvisé. Il faudra donc bien discerner ces volontaires. Je sens que d'ici 6 mois, 1 an, de plus en plus de personnes vont pouvoir peu à peu se retrouver. Et voilà, mes chers amis, je dis, redis et redis, en guise de conclusion à cette série des 12 forces positives, elles sont déjà toutes en place. Solidement inspiré, planté par le Seigneur, et ses 12 forces positives sont indéracinables. Momentanément, à cause du style de vie et de comportement qui prévaut en Église à l'heure actuelle, chez les fidèles des 4 groupes, évêques, prêtres, laïcs, religieux et religieuses, ces 12 forces positives ne sont pas suffisamment alimentées par nous et étouffent bien souvent sous le chien-dent de nos 12 forces négatives. Mais l'heure approche, et dans bien des milieux, elle a même sonné, où le style nouveau, le style de la sève nouvelle, va faire sécher et mourir tout ce chien-dent des 12 forces négatives, et les 12 forces positives vont éclater, s'épanouir et célébrer l'essor, la relance spirituelle et l'entrée dans l'ère du nouveau renouveau continu de et en Église. Mes chers amis, nous allons maintenant passer, selon le schéma général, à la 6e partie. C'est-à-dire répondre à la question « Une relance spirituelle de l'Église s'impose, elle est importante, indispensable, inévitable et urgente. » Après tout ce que nous venons de considérer ensemble, en particulier au cours de la 2e et 3e interpellation, à savoir d'une part, ces 12 forces négatives en Église-institution qui vont en s'accentuant et pressent de plus en plus la courbe vers le déclin, et d'autre part, ces 12 forces positives en Église-communauté qui ont peine à percer, fleurir et porter du fruit à cause du fait qu'elles sont étouffées par les premières, après tout cela, on s'en rend bien compte, une relance spirituelle profonde s'impose. Et comme je viens de le dire, elle est importante, indispensable, inévitable et urgente. Elle s'impose, cette relance, au niveau de chaque Église particulière et dans tous les pays et sur tous les continents. Au Québec, elle est particulièrement pressante si on veut sortir de nos nombreuses et tragiques illusions actuelles et cesser, comme Église, de traîner la patte. Et en vérité, seul un changement radical de vie et de fonctionnement en Église peut ou pourra faire toute la différence entre une Église qui va continuer à chuter vers le déclin d'ici l'an 2000 ou une Église qui va se ressaisir, être relancée par le Seigneur en réponse à un vrai oui de notre part à tous et repartir vers un essor certain. Comme je l'écrivais en 1984 dans cette lettre ouverte et fraternelle à l'Épiscopat du Canada, texte que je vous ai déjà lu d'ailleurs, et que je vous cite brièvement à nouveau, « Seule une réponse généreuse à sa grâce de conversion nous y conduira. » Fin de la citation. Donc, deux mots importants à retenir et à vivre, pour ainsi dire. Sa grâce de conversion. Les églises concernées sont vraiment rendues à l'heure de vérité. Renaître ou disparaître. Car le style actuel est blessé à mort. Il perd et perdra de plus en plus tout son sang et tout son sens, qu'on se le tienne pour dit. On le sait, l'Église, comme telle dans son ensemble, ne périra pas. Les forces de l'enfer ne prévaudront pas contre elle en tant qu'Église. Mais tel ou tel noyau de chrétienté, telle ou telle Église particulière, région ou diocèse, peut perdre la foi et disparaître de la carte religieuse, comme c'est arrivé tant de fois depuis 20 siècles. Si nous prenons au grand total tout ce qui se fait de bon, de beau et de vrai en Église, sans rien omettre ou négliger, et encore une fois, je le dis, c'est énorme tout ce qui se fait de beau, de bon et de vrai en Église. Malgré tout cela, ce grand total, cette haute montagne de bien, d'une part, ne fait pas le poids contre les forces adverses énormes qui minent l'Église par l'intérieur et l'attaquent et la discréditent de l'extérieur. Et d'autre part, et c'est ce deuxième point qui est le plus important, cette somme de tout, absolument tout, le beau, le bon et le vrai que l'Église réussit malgré tout à produire, demeure bien en deçà de ce qu'elle pourrait et devrait faire, qualitativement et quantitativement parlant, si seulement elle acceptait de mettre sérieusement à l'essai le moyen nouveau qui vient de nous être inspiré et demandé par le Seigneur, lui, le tout premier intéressé à ressusciter son Église. Donc un moyen déjà connu, expérimenté et dont les bienfaits sont nettement confirmés, hors de tout doute. Alors que tous les autres moyens que nous déployons ont été tentés et épuisés avec des succès bien relatifs et éphémères. C'est sûr et certain qu'on peut toujours s'évader dans le bien qui se fait afin de ne pas voir en Église ce qui est faux, ce qui est à corriger, ce qui est à cesser, ce qui manque. Mais ayons, au contraire, le courage de plonger dans la triste réalité de notre chute libre en cours pour en trouver les causes et les vraies solutions. Je l'ai dit et je le redis sans cesse, le problème actuel de l'Église ne se situe pas du tout au niveau de nos intentions, qui sont généralement bonnes et sincères, ni de nos déclarations et projets, qui sont généralement justes édifiant même, ni de notre dévouement et de nos activités, qui sont généralement admirables et généreux, ni de notre conduite ou de nos mœurs, qui sont encore, Dieu merci, généralement correctes et se comparent assez bien avec celles de la société actuelle, le grave problème ne se situe pas là, c'est-à-dire dans ce que l'on voit et entend surtout. Il se situe dans le fait que malgré tout cela, malgré ce dévouement surabondant, ces projets, ces déclarations admirables, ces intentions édifiantes, cette bonne conduite en général, malgré tout cela, l'Église continue de décliner, de perdre des adeptes, de décevoir même ceux et celles qui y adhèrent encore, et ne crée pas, du moins chez nous, aucun attrait de retour et de réengagement auprès de ceux et celles qui l'ont déserté. Et plus encore, la crédibilité des fidèles et du peuple en général envers les chefs religieux est aussi en chute libre. Or, ce n'est pas là, mais pas du tout, l'Église annoncée, pourtant promise et bien préparée par le Seigneur pour ce 20e siècle. Il nous faut donc lancer un avis de recherche en grande priorité. Il nous faut retrouver cette Église où le Seigneur est roi et maître à bord. Celle-là, et celle-là seule, est vraiment équipée pour faire face aux tempêtes du monde actuel. La révolution des révolutions de tous les temps, c'est celle que Jésus lui-même a amorcée et qui se continue. Et les vrais de vrais révolutionnaires dans le monde et dans l'Église, ce sont ses disciples fidèles qui trouvent le moyen de tenir cette révolution en marche. Non pas ceux et celles qui tentent de susciter de nouvelles ou pseudo-révolutions de leur cru. Ces mini ou pseudo-révolutions ne font pas le poids face aux besoins et aux défis de l'humanité hypothéquée. La révolution des révolutions, suscitée et maintenue par Jésus, a cependant, notons-le bien car c'est très important, deux composantes essentielles, tout à fait inséparables et complémentaires l'une de l'autre. Elle est explosive, tant par ses idées que par ses moyens, et l'on ne peut prétendre, comprendre, appliquer et vivre les idées à la base de cette révolution des révolutions suscitée par Jésus que si l'on s'assure de recourir à fond et continuellement, pas seulement à ses principes, mais tout autant aux moyens qu'il met, lui, Jésus, à notre disposition. Sinon, c'est un idéal inaccessible à qui que ce soit, du moins à longue portée et de façon durable. Et c'est ici, sur cette omission grave, que plusieurs, dont bien des pasteurs, évêque ou prêtre ou laïc, hélas, commence à bifurquer, à louvoyer et finalement à se fourvoyer. Il voudrait imaginer et proposer de nouveaux moyens, souvent les leurs, pour promouvoir et réaliser la bonne nouvelle de Jésus. Or, ces moyens-là, faute d'être les siens, ceux de Jésus, les vrais, ces moyens s'enracinent peu ou pas, ne se greffent pas et ne produisent pas les fruits spirituels escomptés. La révolution des révolutions de Jésus forme un tout homogène, compact, où les idées et les moyens doivent se serrer ensemble. Jésus appelle ses disciples en Église à de l'héroïsme, certes, mais du même coup, il les équipe en conséquence de tous les moyens nécessaires et suffisamment puissants pour être des héros, R.O.S., et des héros, R.A.U.T.S., dans le monde d'aujourd'hui. Le vrai de vrai chrétien est un révolutionnaire dans la mesure même où Jésus poursuit en son être, cœur, esprit et âme, sa révolution bien à lui, le Seigneur. Si cette révolution du Christ n'est pas en évolution continue, en l'être du disciple, le chrétien en question aura beau se vouloir révolutionnaire ou se déclarer révolutionnaire, aura beau s'activer en de multiples initiatives, déclarations ou gestes d'allure apparemment d'avant-garde, ce chrétien, cette chrétienne, est non-révolutionnaire, est même contre-révolutionnaire, est de facto réactionnaire, retardataire, car en cette personne, malgré les apparences, la révolution de Jésus n'est même pas en cours dans son esprit et son cœur d'abord. Et alors, ce qui s'extériorise dans ses déclarations et ses gestes, soi-disant d'avant-garde, ce n'est pas le fruit de la révolution de Jésus, mais uniquement le fruit d'une motion purement humaine. Pour que la révolution de Jésus évolue réellement en nous, face à son œuvre, il ne suffit pas non plus d'être pratiquant, d'être fervent dans la prière, voire même d'être officiant ou célébrant à la messe, même pontificale. Il faut beaucoup plus que cela. Il faut de toute nécessité que son cœur et son esprit deviennent vraiment brûlants et ardents de sa présence à lui le Christ, vraiment, présence vraiment active et continue. Et on me fait signe que le moment est venu de tourner cette cassette. Nous reprendrons dans un instant.